On commence cette série Rafraîchissement et notre objectif, c'est d'être rafraîchi. Vous dites, ça c'est bien l'été. Hein, l'été, ça fait du bien, une bonne limonade, là, bien froide quand il fait chaud dehors, que c'est humide. Et notre optique, c'était d'avoir pendant l'été, d'explorer les psaumes, d'explorer certains psaumes, parce que évidemment, il n'y a pas assez de dimanches pour explorer 150 psaumes. Alors, il faut en sélectionner, évidemment. Mais on pense que dans le livre des psaumes, il y a une expérience réelle de la vie de tous les jours, mais également une expérience réelle avec Dieu. Et comment Dieu est capable d'intervenir à travers les circonstances de nos vies, et comment, à quel point est-ce que, à travers certaines prières, certains événements, certains passages, on peut être encouragé, rafraîchi dans notre foi. Et on espère que ce matin, et dans les prochains dimanches également, vous allez apprécier cette série-là. Ce matin, je sais que la semaine passée, on vous l'a dit, il y en a-tu qui ont lu Psaume 4? Bon, vous l'avez déjà lu un jour. Mais ce matin, si vous avez votre application, votre Bible, ce que vous avez, que vous êtes capable de lire la Bible, vous allez sur Internet, vous tapez Psaume 4, verset 21, S21, puis vous allez être avec moi. On va vraiment explorer ce psaume-là encore. Et mon plan de match, c'est qu'on le lise, on le relise, on comprenne bien. Puis ensuite, il y a plusieurs perles de sagesse, plusieurs belles choses qu'on va pouvoir en tirer également pour notre vie. Amen. Ça vous plaît? On va explorer la parole, c'est pour ça qu'on est là ce matin, entre autres. Alors, psaume 4, au chef de chœur avec instrument à cordes. Alors, Sam, non, pas besoin de guitare, on va le faire sans musique. Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Vous, les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Verset 9, je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Amen. Hey, on va le relire. Vous savez quoi, la parole, c'est bien de la lire et de la relire. On va la relire ensemble, ça va? C'est bon. Ben, même si vous ne voulez pas, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le micro. C'est comme ça. On va commencer au verset 2. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Vous, les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. » L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Ah, ça mérite un autre amen. Hein? C'est aussi bon que la première fois. C'était écœurant. Et là, c'est là que quelqu'un qui a mal dormi cette nuit dit amen. Hein, je me couche et je m'endors. Hein? C'est si merveilleux, ça. Hein? Il y en a qui rêvent à ça. Ils rêvent éveillés de pouvoir s'endormir. En tout cas, bon. On parlera pas de sommeil, je ne suis pas un spécialiste du sommeil ce matin, mais ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est reprendre ces versets-là, verset par verset, les comprendre, et puis comme je vous dis, on va les approfondir, on va voir qu'est-ce que la parole a à dire, et même il y a parfois des écritures qui vont citer ce psaume-là, et puis à quelque part, on va avancer dans tout ça. Lorsque le psalmiste va dire « Quand je crie, réponds-moi, quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large, aie pitié de moi », quand ça veut dire « tu m'as mis au large », ça veut dire quoi ça? « Tu m'as mis au large ». Dans notre tête, c'est comme l'idée, OK, tu m'as mis au large, c'est quoi, c'est plus dangereux au large? Non, c'est cette idée-là, tu m'as mis comme à l'abri. Il y a d'autres traductions qui vont dire, mon cœur est au large, tu me mets à l'aise, tu m'as rendu la liberté, toi qui délivres de la détresse. Alors, il y a cette idée-là que tu m'as mis au large, c'est comme si tu m'as conduit dans un endroit où est-ce que j'ai été délivré, où est-ce que j'ai été répondu. Et je ne sais pas si vous voyez un peu ce pattern-là dans le verset 2. C'est spécial parce que on voit vraiment que David vit une situation qui est vraiment pas évidente. Ça sent, hein? Ça se lit, ça s'entend. Et puis là, il va dire, quand je crie, réponds-moi. C'est comme il est dans le présent. Aujourd'hui, je crie, Seigneur, réponds-moi. Mais alors qu'il va être dans cette situation présente, il se rappelle qu'il s'est déjà passé d'autres choses avant. Et là, il va aller dans le passé, il va dire, quand j'étais dans la détresse, parce qu'il y a eu d'autres situations qui étaient dans la détresse, je me rappelle, tu m'avais mis au large. Je me rappelle, tu m'avais délivré. Je me rappelle, mon cœur avait été rassuré. Et qu'est-ce qu'il fait après ça? Il se rappelle du passé et il revient au présent. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Et quelle belle façon de prier, hein? On est dans une situation, mais on n'oublie pas les bienfaits de Dieu. On n'oublie pas à quel point Dieu nous a sortis bien souvent du bourbier dans lequel on s'était mis nous-mêmes, hein, ou le bourbier dans lequel d'autres nous avaient mis si gracieusement. Puis après ça, parce que là, vous avez compris que dans ce psaume-là, il ne parle pas juste à ses amis, hein. Vous avez compris qu'il parlait à ses ennemis? Vous avez entendu ça, hein? Alors, c'était pas une situation si facile que ça. Il y avait des ennemis qui étaient là, mais il se porte dans le présent, se rappelle du passé et revient en disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, je te fais confiance. » Ensuite de ça, c'est spécial parce que il va comme s'adresser à ses ennemis, mais en s'adressant à Dieu. Il va parler, il va dire, on peut passer à l'autre diapo, « Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? » Puis là, on dit, « Coudonc, qu'est-ce qu'il y a, David? Il va pas bien. C'est ma gloire, c'est quoi? Il est imbu de sa personne. » Non, non, non. En fait, ce qu'il est en train de dire là, c'est que c'est comme s'il est en train de parler au Seigneur, c'est une prière au Seigneur, mais il s'adresse au Seigneur en parlant à ses ennemis-là. Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant. Et quand il va dire « Jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? » Il y a un autre psaume, quelques psaumes plus tard, qui va le dire un peu de la façon suivante, qui dirait « Jusqu'à quand traînerez-vous mon honneur dans la poussière? » Ah, là, on comprend mieux. Mépriser ma gloire, c'est quoi? Tu respectes pas le roi? Non, non, non. C'est mépriser mon honneur pour le traîner dans la poussière. Et là, David dit, hey, jusqu'à quand vous allez faire ça? Il est en train de parler des motivations, des torts de ses ennemis envers lui. Jusqu'à quand mépriserez-vous cette gloire-là? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous même le mensonge? Fait qu'il est en train d'expliquer sa situation. Et c'est comme s'il parle à ses ennemis à travers cette prière-là, ce chant-là. Nouvelle façon, peut-être. Peut-être vous avez été habitué, il y a des Québécois qui sont très... Moi, t'as le dur d'en face! Si ça marche pas, jusqu'à quand, là, toi, tu vas faire ça? Puis... Mais David fait pas ça cette fois-ci. David, il est plus... Non, je le dis au Seigneur. Et puis, à quelque part, on va voir qu'il y a une richesse là-dedans. On va voir à travers la continuité du psaume. Et puis là, on s'en va au verset 4, à l'autre diapo. Ça, c'est une parole intéressante. Je ne sais pas si vous avez allumé là-dessus. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. On peut appeler ça de la confiance en Dieu? Quand il va dire « c'est choisi un homme fidèle », ça parle d'un... Il dit « regardez, l'Éternel, il m'a choisi... » Mais d'une certaine façon, il a choisi un homme qui était consacré à lui. C'est l'idée d'être consacré à Dieu. Il y a une autre traduction, la parole de vie, qui va dire « Apprenez ceci, le Seigneur honore son ami fidèle, le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. » Alors, il est en train vraiment de parler de lui-même. David parle de lui-même en disant « Hey, là, moi quand je prie à Dieu, il m'exauce. » C'est quand même spécial, hein? Mais en même temps, n'oublions pas que David a un historique dans sa relation avec Dieu. Il a un historique dans le sens qu'il a vécu plusieurs événements dans lesquels il est capable de dire « Le Seigneur entend ma prière et m'exauce. » Et vous savez, des fois, on peut entendre des prédicateurs qu'on aime beaucoup, des gens qui nous inspirent. Et on dit, hey, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça faire ça comme ci ou faire ça comme ça. Mais vous savez, il y a une chose qu'aucun prédicateur ne pourra vous donner. Aucun. C'est son historique avec Jésus. Ça, c'est entre vous et Jésus. Vous comprenez? Cette historique-là, cette histoire de temps passé avec lui, cette histoire de prières élevées vers le Seigneur qui parfois sont répondues et parfois sont répondues différemment de ce qu'on voulait qu'ils soient répondues. Mais elles sont répondues quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais cette histoire avec Dieu, ça, quand même que vous voudriez aller voir l'homme de Dieu que vous voulez, cette histoire, cet historique-là ne peut pas vous être légué. C'est entre nous et le Seigneur. Et David était capable de dire, le Seigneur entend quand je crie à lui, parce qu'il y a une histoire. Et à travers ces psaumes, si on voit qu'il y a 150 psaumes, ils ne sont pas tous écrits par David, évidemment, mais à travers ces psaumes, il y a cet héritage, il y a cette signature, il y a ce journal personnel des choses que Dieu a exaucées dans sa vie. Nous, on lit ce passage-là, puis on se dit, qu'est-ce que tu veux bien, peux-tu me dire qu'est-ce qui se passait quand tu as écrit ça? Mais David, quand il relit, il sait exactement quelle est la situation. Il sait exactement quel était le danger. Il sait exactement comment Dieu même a répondu. Parce que quand il le relit, la situation, elle est exaucée finalement. Et c'est la même chose dans nos vies. Dans nos vies également, à travers notre histoire avec Jésus. On a ces histoires d'exaucement, ces histoires où ce que Dieu est intervenu, parfois comme un héros rugissant et parfois comme un sage qui nous donne une parole de vie dans l'oreille. Cet historique-là avec Dieu. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Et puis là, il va, au verset 5, il va se remettre à reparler à ses ennemis. Il va dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. C'est bizarre parce que c'est comme s'il est en train de prêcher à ses ennemis. Il est en train de les exhorter à la repentance. C'est spécial, n'est-ce pas? Bon, là, peut-être vous dites, ah ouais, mais là, pasteur Jean-Fred, tu n'as pas lu tous les psaumes. Il y a des psaumes que David est vraiment fâché contre ses ennemis. Je les ai lus. Je comprends. Mais ici, il est vraiment dans... Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Il parle de repentance, il les exhorte. Et c'est tellement bon que Éphésiens va en parler. Éphésiens 4, 25, 26, vous l'avez à l'écran. Et c'est un encouragement à l'Église d'Éphèse. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Hey, ça, là, ça vaut 150$ pour les couples de l'Assemblée. Hein? Au moins 150$, là. Ne vous couchez pas sur votre colère. Ne laissez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais le passage va parler des uns des autres, donc des membres de l'Église. Ne soyez pas en colère les uns les autres. Et la deuxième partie du passage, je fais penser à un passage dans Lamentation, hein? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bon d'attendre en silence. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se la zipper. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour laisser Dieu agir. Il y a un temps pour élever notre voix. David le fait. Mais il y a un temps également pour, plutôt que ressasser dans notre cœur toutes les choses que les ennemis auraient pu nous faire, il y a un temps pour juste être en silence et laisser l'Éternel agir. Belle sagesse, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Continue. On continue à la prochaine diapo. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Vous dites, il n'arrête pas sa prédication, lui. Il est en train de dire à ses ennemis, « Hey, guys, offrez des sacrifices conformes à ce que Dieu veut. » En fait, ce qu'il est en train de leur dire, il dit, regardez, vous me voulez du mal, puis on se comprend que ça devait être des gens proches du peuple, parce que probablement que c'était des gens qui faisaient des sacrifices d'agneaux pour le pardon, comme les rites juifs l'exigeaient, comme la Torah l'exigeait pour eux. Mais David va dire, hey guys, offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous à l'Éternel. Il est en train de dire, hey guys, Faites des sacrifices que Dieu va agréer, que Dieu, qui vont plaire à Dieu. Et puis là, ça nous ramène dans un récit du roi qui était là juste avant David, le roi Saül. Saül part en campagne, puis il y a cet ordre-là qu'il faut que tout ce qui va être capturé soit littéralement abattu, mis, on rase tout. C'était ça l'ordre. Et puis là, Saül est là, et puis là, les gens du peuple reviennent, et puis ils ont amené toutes sortes de brebis, toutes sortes de moutons, toutes sortes de choses, puis là, le prophète Samuel se pointe. Et là, il va voir Saül, il dit, « Hey, qu'est-ce que j'entends là? J'entends-tu des moutons, moi, là? » Puis là, Saül sait que, théoriquement, il n'y avait pas de moutons qu'il fallait qu'ils reviennent, hein? Il fallait qu'ils restent là-bas, sans vie, OK? Alors, Samuel, « Hey, il n'y a pas... Qu'est-ce que j'entends? » Fait que là, Saül va dire, hey, mais là, c'est parce que le peuple voulait offrir des sacrifices pour l'Éternel. Il voulait offrir des brebis pour la victoire que nous avions acquise. Et voici dans 1 Samuel 15, ce que Samuel va dire à Saül. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes, les sacrifices d'animaux et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Alors, ce qu'il est en train de dire à ses propres ennemis, arrêtez de faire de la graisse des béliers les sacrifices que vous offrez. Mais ce que Dieu demande, c'est l'obéissance et la droiture. Vous vous rappelez que tout à l'heure, il disait, pourquoi est-ce que vous aimez le mensonge? Pourquoi est-ce que vous aimez toutes ces choses-là, ce qui n'est pas vrai? Alors, encore une fois, le bon pasteur David prêche à ses ennemis d'offrir des sacrifices qui vont lui plaire, qui vont plaire à Dieu dans le sens de la justice, de ce qui est juste et non pas de ce qui est injuste ou ce qui est dans le mal, dans le mensonge ou justement... Au verset 2 et au verset 3, il parle « Aimerez-vous ce qui est sans valeur, ce qui est futile, ce qui n'est pas nécessaire? » Alors, intéressant de voir que David s'adresse encore à ses ennemis et puis il s'adresse dans un sens qui veut même leur bien. Intéressant. On continue. Prochaine diapo, on est rendu au verset 7. Vous l'avez dans votre Bible, hein, ou dans votre application, on suit ensemble. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur? » D'autres traductions vont dire « D'où nous viendra le bonheur? » À quel endroit est-ce que je vais trouver ce bonheur-là? « Qui nous fera voir le bonheur? » Et puis là, David va dire « Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. » Wow! Est-ce que vous comprenez ici que David est en train d'inclure, quand il parle de « nous », il est en train d'inclure ses ennemis dans cette prière de faire voir la lumière sur nous. Il est en train de prier cette bénédiction-là, d'espérer cette bénédiction-là sur ses ennemis, dont il est en train d'essayer de les exhorter sans qu'il le sache, parce que finalement, il est devant le Seigneur. Hein? Vous rappelez qu'il n'est pas un appel vidéo avec et le Seigneur et ses ennemis en appel conférence. Il est en dialogue avec Dieu. Il est en dialogue avec Dieu. Et puis, faut quand même dire que quand on entend « Fais briller la lumière de ton visage sur nous », ceux qui ont lu un peu, qui ont passé au travers les 5 premiers livres de la Bible, il y a un passage qui est super important, puis c'est le nombre 6. Et ça, c'était l'instruction « Comment vous allez bénir le peuple? » Et c'est comme si Dieu donne la façon de bénir le peuple à Moïse et à ceux qui sont là, aux Lévites, aux prêtres. Et il va dire la chose suivante dans Nombre 6, 24, 26, « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. » La paix en Israël, c'est shalom, te donne le shalom. Comprenez cette prière de bénédiction-là qui est vraiment... qui est de toute beauté, là. C'est une prière que les Juifs s'approprient et ils espèrent que ça va être ça. Et vraiment, c'est une prière puissante, même pour aujourd'hui, même si elle a été écrite il y a de ça plus de 4000 années. À quoi ressemble le bonheur? Bien, le bonheur ressemble à l'exaucement de cette prière-là. Que l'Éternel te bénisse, te garde, qu'il fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Ça vous est-il déjà arrivé de vouloir que vos ennemis puissent avoir le visage de l'Éternel qui brille sur eux? Peut-être pas notre premier réflexe, hein? Mais David est en train de dire ça. Il est en train d'espérer cette grande prière de bénédiction qui fait référence de façon directe de nombre 6. Il est en train de vouloir qu'elle s'applique même à ses ennemis, à ceux qui l'énervent, disons. Après ça, il va même au verset 8, on continue. L'idée, c'est de comprendre le texte. Hein? Vous comprenez, c'est pour ça qu'on y va verset par verset. On comprend, on approfondit, puis dans quelques instants, on va faire quelques pistes pour nos vies. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur huile et leur vin. » Et là, il est en train de se comparer à ses ennemis. Il est en train de comparer les deux bénédictions. Parce que si c'était des gens, et on imagine que c'est des gens qui complotaient contre le roi David, ben c'était pas les pires paysans qui complotaient contre le roi. C'était souvent des gens un petit peu plus haut gradés, comme l'histoire du monde nous a prouvé. Hein? Tu sais, il y a des pays où est-ce que finalement, il y a un roi qui est là jusqu'à temps qu'il y ait une tribu ou une guérilla, souvent avec le chef de l'armée, qui devienne assez grosse pour tuer le président ou tuer le dirigeant. Et puis là, il y a un renversement de gouvernement. Ils prennent le pouvoir et là, il y a un autre groupe pas content qui commence à zéro, qui se bâtit, qui prennent des forces, qui prennent de l'influence, jusqu'à temps qu'il soit assez fort pour tuer le roi et il prend sa place et ainsi le cycle de la vie continue. Rien de nouveau sous le soleil. OK, rien de nouveau. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gens qui sont en train de piquer David, les gens qui sont en train de le harceler, d'en vouloir probablement même à sa vie, de répandre sa gloire dans la poussière, sa réputation dans la poussière, ben c'est des gens qui avaient probablement beaucoup de blé, beaucoup d'huile et beaucoup de vin. Là, c'est les signes extérieurs d'abondance et de richesse et finalement de bénédiction. C'était comme un symbole de bénédiction, plus t'as, hein, puis des fois on a cette impression-là, même dans notre société, hein, plus tu as d'argent, puis plus tu es béni, ça veut dire plus tu es proche de Dieu. Mauvaise réponse. La bénédiction de Dieu n'est pas reliée à ton compte de banque, elle est liée à ce qui se passe dans ton cœur. David nous le dit même plusieurs milliers d'années avant, il va dire, « Hey, tu mets dans mon cœur plus de joie que ceux qui pourraient avoir tout le blé, toute l'huile et tout le vin qu'ils voudraient. » Il est en train de faire la comparaison entre la joie qui découle de la sécurité dans la présence de Dieu versus être dans une abondance physique avec tous les biens matériels qu'il pourrait bien avoir. Il est en train de dire, « Guys, il s'exhorte encore, hein? Hey guys, vous avez du vin, vous avez du blé, félicitations, mais vous n'avez pas encore connu qu'est-ce que c'est, cette bénédiction-là, cette joie-là d'être en relation avec Dieu. » Et ça, c'est notre force, hein, comme croyant. Notre croyant, c'est pas la promesse qu'on va avoir tout cuit dans le bec, qu'on va avoir tous les biens et toutes les choses qu'on a toujours rêvées. Notre joie profonde, elle provient pas de ces choses-là. Elle provient de ces moments dans sa présence. Elle provient de cet historique qu'on a avec Dieu qui est propre à chacun de nous. Il y a plus de joie là-dedans qu'un festin de barbecue. Hein, je vous l'ai dit, hein? C'est grave, ça, hein? Hein? Ceux qui nous visitent, je parle souvent de barbecue. Fait que là, je viens de dire que vraiment passer des moments dans la présence de Dieu, c'est vraiment mieux qu'un bon barbecue. Fait que là, les gens sont comme « Wow! » Ça devrait pas être si surprenant que ça quand même. Mais il y a plus de joie là-dedans que même si tu vas faire le meilleur barbecue à tous les jours de ta vie. Et il finit son psaume avec quelque chose que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de prier ça avant de se coucher. « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Amen. Amen. Je me couche et je m'endors parce que je suis en paix. Vous comprenez que dans ce contexte-là, c'est qu'on comprend par ce texte-là qu'il y a des gens qui en voulaient à sa vie. Et il est en train de dire, peu importe qui s'en veut à ma vie, Dieu est le gardien de la porte de ma demeure. Je peux m'endormir en paix, même s'ils en veulent à ma vie. Jésus, Dieu est ma sécurité. Et là, on vient de découvrir c'est quoi le thème de ce psaume-là. Le thème de ce psaume-là, c'est que Dieu est notre sécurité. Que Dieu est la sécurité de ce roi David qui est pogné de bord et d'autre, que des gens essayent de le traîner dans la poussière. Mais peu importe tout ça, il sait qu'en Dieu, il est sécure et capable de s'endormir en paix parce que qu'est-ce que me feraient les hommes, hein? Dieu est mon appui, Dieu est ma sécurité. Et là, on a fait un petit wrap-up, là, un petit récapitulatif de ce psaume-là. Et savez-vous quoi? Les prédicateurs qui viendront cet été ne sont pas obligés de faire comme moi. Ils apporteront les psaumes comme ils le veulent. On fonctionne comme ça ce matin, puis c'est très bien. Je me couche et je m'endors. Vous voyez le texte, hein? Il y a un autre psaume qui en parle un peu d'une façon similaire. L'Éternel est pour moi. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face. Amen. Qu'est-ce que peuvent me faire des hommes? Là, vous dites, ah ben moi j'ai une bonne liste. J'ai vécu, j'ai une bonne liste. Qu'est-ce que le psaume veut dire? Est-ce qu'il est en train de dire, il n'y a personne qui sera capable de me toucher parce qu'autour de moi, il y a un aura de 3 mètres et tout ennemi meurt aussitôt qu'il rentre dans cette aura de 3 mètres-là? Non. Il est en train de dire, il n'y a personne qui va pouvoir m'enlever cette joie-là. Il n'y a personne qui va pouvoir m'enlever mon Dieu qui me protège. Personne ne pourra faire ça. Ils pourront s'essayer. Puis si vous avez lu 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, vous avez vu, plusieurs personnes se sont attaquées à ce cher roi David. Il y en a vu un puis une autre. Mais il est en train de dire, regarde, c'est Dieu qui décide, c'est pas eux. C'est Dieu qui est ma sécurité. De quoi est-ce que j'aurais peur? Et dans un monde dans lequel nous vivons, avec toute l'anxiété qui y est rattachée, il est bon de se rappeler qu'on n'a pas besoin d'avoir peur parce que Dieu est notre sécurité. Parce que Dieu est notre sécurité pour vrai, là. Pas juste à semblant, pour vrai. Et 3 pensées que j'aimerais vous laisser et qui pourraient nous inspirer dans notre marche avec Jésus, inspirer de ce psaume-là, évidemment. Le premier, c'est David était en sécurité au point de souhaiter le meilleur aux autres, à ses ennemis. Et la question qui se pose, c'est, est-ce que tu es assez sécure avec ton Dieu pour pouvoir espérer le meilleur pour ceux qui sont tes ennemis ou ceux que peut-être que tu aimes moins naturellement que d'autres? Est-ce que tu es assez sécure dans ta relation avec Dieu pour justement espérer que tes ennemis parviennent à la repentance? Vous savez, il y a des prières classiques, hein? Quand on a des ennemis, une prière du genre « Seigneur, je te prie que tu puisses le sauver pour qu'il réalise à quel point il m'a fait mal. » C'est une prière pour la repentance qui n'a peut-être pas la bonne motivation. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez déjà fait ça? Oh non, personne n'a fait ça. On est tous des chrétiens sanctifiés ici quand même. Quand même. Mais tu sais, il y a cette idée-là que des fois qu'on prie pour nos ennemis, tu sais, puis on prie pour des gens qu'on n'aime pas, c'est comme... Notre objectif, c'est qu'ils puissent comprendre à quel point ils nous ont fait mal. Fait qu'on veut que Christ entre dans leur vie pour qu'ils comprennent et non pas pour que Christ soit dans leur vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ici, David n'est pas là-dedans pantoute. En tout cas, pas dans ce psaume-ci. Il est vraiment dans l'idée, non, je veux qu'il offre des sacrifices qui vont plaire à Dieu. Je veux qu'il rentre dans cette vérité-là. Je veux qu'il vive une joie bien plus grande que celle d'avoir de la bouffe à volonté. Je veux que... Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis, à quelque part, est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est assez sécure en Dieu pour pouvoir espérer vraiment une réelle repentance de ceux qui sont des ennemis? J'aimerais vous dire que c'est le cœur de l'Évangile. C'est le cœur de l'Évangile. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. On va lire un passage dans Matthieu 5, versets 43-48. C'est le cœur de l'Évangile. Jésus va dire à ses disciples, à la foule qui est là, sermon sur la montagne, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, ça c'est Jésus, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et quand je vous dis que c'est l'Évangile, là, Jésus est venu sur terre pour sauver ceux qui agissaient comme ennemis de Christ. Nous, vous, nous tous. C'est exactement l'œuvre de Jésus à la croix. Il est venu alors qu'on était dans la rébellion, alors que ce qu'on méritait, c'est la croix. Jésus a pris cette croix-là alors qu'il a aimé ses ennemis qui étaient nous. Quand je vous dis que c'est le cœur de l'Évangile, c'est le cœur de l'Évangile. Alors même, il y a des traces dans l'Ancien Testament. Avant que cette grâce extraordinaire-là de Jésus sur la croix arrive, déjà il y a des traces dans les psaumes avec David de cette idée d'aimer ses ennemis, de souhaiter même leur repentance, sachant que c'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. En sécurité au point de souhaiter le meilleur aux autres. Et Jésus, quand il lance ce défi-là aux croyants, il est en train de dire, « Guys, si vous aimez vos ennemis, vous êtes juste en train de faire ce que moi-même j'ai fait. Suivez mes pas. » Bon, je sais que vous n'êtes pas si enthousiaste que ça, aimer vos ennemis, mais c'est ma job de vous le prêcher quand même. Aimons nos ennemis. Prions pour eux. Élevons-les devant le Seigneur, non pas pour qu'ils comprennent la douleur, mais pour qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. L'autre diapo... J'aimerais nous faire réfléchir au fait que David est en sécurité dans son identité. C'est spécial quand même d'être capable de dire, « Hey, l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je lui prie. » Puis au final, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, « T'es-tu vraiment en train d'essayer de me faire du mal, sachant que Dieu pourrait faire ce qu'il veut avec toi? T'es-tu vraiment en train de me dire que tu es prête à faire le mal, puis que même si Dieu m'exauce, tu vas continuer là-dedans. » C'est spécial quand même, hein? Oups. Es-tu certain de vouloir t'attaquer à un enfant de Dieu? Es-tu certain? Bon, il faut comprendre que ces paroles-là ont été prononcées devant le Seigneur. Si je parlais à un ennemi qui m'en veut et que je lui dis, « Ah ouais, tu veux t'attaquer à quelqu'un qui aime Dieu? » Est-ce que vous voyez un peu l'arrogance, tu sais, l'idée d'être, en anglais, on parle cocky, là, tu sais, un peu baveux, là. Puis même provocateur, confrontant, c'est pas ça. C'est pas ça. Le but, c'est pas de dire, je vais les fronter puis je vais leur dire, « Hey, si tu fais ça, tu es vraiment dans... » Ça commence par M puis ça finit par hard. Comprenez? Non, notre but, ce n'est pas de confronter les gens. Mais ce qu'on voit ici, c'est que David est en sécurité dans son identité. Il sait qu'il est choisi. Il sait qu'il est entendu. Et à cause de ça, il sait qu'il y a une importance aux yeux de Dieu. Et une fois qu'on sait qui on est dans le Seigneur, une fois qu'on sait que c'est pas parce qu'on est des top performants là dans la vie chrétienne et dans le jeûne et la prière que Dieu nous aime, une fois qu'on sait que c'est parce que Dieu nous a choisis, que Dieu nous entend, ben on peut se tenir devant nos ennemis sans crainte, parce que notre identité n'est pas menacée par un ennemi. Comprenez ce que David nous apprend ici. Il est choisi puis il le sait. Mais il le dit à qui? Il le dit au Seigneur. Il parle à ses ennemis, mais il le fait dans la prière. Il le fait dans ce chant-là qu'il compose. Ma question, c'est de quel type d'assurance es-tu revêtu ce matin? Est-ce que ton identité est fondée en Jésus-Christ? Est-ce que tu sais qui tu es en lui? Et si tu sais qui tu es en lui, tu n'as pas besoin de faire l'arrogant. Parce que tout est une question de grâce en lui. Mais il y a quand même cette assurance-là du cœur de savoir que ma vie est entre ses mains, je n'ai rien à craindre. Hein, c'est ce chant, je sais qu'il vit. Entre ses mains, je mets ma vie. Pour ce temps-ci et l'éternité, je sais qu'il vit. Il y a cette idée-là que si je suis sécur dans mon identité, je n'ai pas à craindre qui que ce soit. Et finalement, alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci, on est en sécurité dans la joie. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Est-ce que tu es assez proche de Dieu pour trouver ta joie en lui et non pas dans autre chose que lui? Est-ce que Jésus est suffisant? Ou ça prend Jésus plus l'abondance? Ou ça prend Jésus plus ci ou plus ça? Est-ce qu'il y a de la joie dans cette relation-là avec lui? Bon, maintenant, c'est ce que je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que quand tu prends 15 minutes de prière avec Dieu, tu vas vivre l'extase totale à toutes les fois. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On n'est en train pas de parler d'une joie genre « Yes, le Canada a gagné en quart de finale de la Copa América, il s'en va en demi-finale contre Lionel Messi. » Ce n'est pas de cette joie-là qu'on parle. Une joie qui est comme un moment de réjouissance. Je ne suis pas en train de parler de ce genre de joie-là. Je suis en train de parler d'une joie profonde qui demeure. Parce que d'ailleurs, le Canada ne gagne pas souvent. Fait que si c'était juste là-dessus au soccer que je devais me baser, ça ne serait pas une joie constante, ça serait une joie assez circonstancielle, merci. Vous comprenez cette idée d'une joie qui demeure. Et c'est ça que David va souhaiter même à ses ennemis, de trouver plus de joie en lui que de joie dans toutes ces autres choses comme l'abondance. Hein, dans notre monde, c'est facile de se réjouir de l'abondance. Chacun d'entre nous, on est probablement plus riche que 90% de la planète. C'est fou. Puis même nos plus pauvres sont plus riches que bien d'autres plus riches ailleurs. En tout cas, quand on met tout ça en perspective, mais on peut être dans un des pays où est-ce que les gens sont les plus riches, mais de vivre une tristesse dans le cœur. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la joie qui est là dans notre relation avec Dieu, cette joie qui demeure, c'est ça qui nous donne la sécurité. C'est ça qui nous donne cette sécurité que même si les ennemis arrivent, mon cœur demeure dans la joie. Parce que quand les ennemis arrivent, Dieu, lui, n'est pas parti. Si ma joie est en Dieu, les circonstances souffleront comme tu veux. Dieu, lui, n'a pas changé de place. Je peux me réjouir en lui. Je peux avoir cette paix, cette assurance-là dans mon identité, dans le fait qu'il est là, que peu importe l'ennemi qui arriverait, ça ne change rien. Tu ne changes pas la donne, cet ennemi-là, parce que cette joie-là, elle demeure. Maintenant, est-ce qu'on est des êtres humains, puis est-ce qu'on a le droit d'avoir de la tristesse quand il arrive des choses qui sont tristes? Mais vous savez quoi, je parlais avec quelqu'un qui est dans le deuil présentement. On s'écrivait. Puis une des choses que je lui disais, c'est que dans la vie chrétienne, il arrive souvent ce moment-là où est-ce qu'on vit les deux émotions contradictoires en même temps? On est dans une tristesse parce qu'il est arrivé quelque chose de vraiment plate, vraiment de triste. On peut être dans le deuil, il y a quelqu'un de cher qui est parti. Puis en même temps, on peut vivre cette joie du Seigneur parce que le Seigneur est avec nous. Et dans le monde, c'est comme, tu ne peux pas vivre la joie et la tristesse en même temps. Mais j'aimerais vous dire que dans le royaume, c'est possible. C'est possible. Parce que cette joie constante-là qui est en Dieu, puis cette tristesse-là de voir quelqu'un qu'on aime partir, ça peut arriver en même temps. Il y a des fois où est-ce qu'on se met à pleurer, puis 30 secondes après, on a un sourire, puis on ne comprend pas pourquoi. Bien, c'est un peu ça. C'est normal. C'est normal. C'est normal de pleurer. C'est normal de pleurer. Mais c'est normal aussi de vivre cette espèce d'émotion contradictoire, de dire « je peux être dans la joie, même si mes circonstances me mènent à la tristesse. » Est-ce que ça va être une joie, genre « je vais danser de joie parce que quelqu'un est décédé? » Non, ce ne sera pas ce type de joie-là circonstancielle. Ça va être une joie profonde du cœur parce que Dieu n'a pas quitté le bateau. Dieu est resté dans la barque avec nous autres. Matthieu 6 va dire « recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses, ces biens, ces choses qu'on a besoin, ça vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. qui est ta sécurité ce matin? C'est qui ta sécurité? Quand je vous pose une question, si vous êtes à l'école du dimanche, vous dites Jésus, puis c'est 70% la bonne réponse. Je vais répéter ma question. Qui est notre sécurité ce matin? Amen. C'est lui qui est notre secours. C'est lui par lequel on peut se tenir devant un ennemi et ne pas avoir peur, parce que même si les circonstances sont menaçantes, Jésus n'a pas changé de place. David était capable de même prier et d'espérer le meilleur pour ses ennemis, parce que son cœur était en paix avec Dieu. Christ est mon défenseur. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens ici qui ont besoin d'entendre ce matin que Christ est l'endroit où est-ce que tu peux ventiler. C'est ton safe space, ton endroit sécure. David n'a pas utilisé la plateforme du roi pour dire à quel point il était malheureux ou à quel point il y avait du monde qui le traînait dans la poussière. Il était devant le Seigneur et il ventilait devant le Seigneur. Je pense que plusieurs personnes auraient besoin de ventiler devant le Seigneur et après ça, utiliser le conseil de David de se tenir en silence et de laisser Dieu agir plutôt que de ressasser et de ressasser et de ressasser et de ressasser. C'est peut-être une des clés, justement, pour mieux dormir. Est-ce que c'est facile? Non. Christ est celui qui me permet de dormir dans la paix parce qu'il surveille mes arrières. Et en continuité du message de la semaine dernière pour ceux qui étaient là, Christ mérite que je lui fasse entièrement confiance parce qu'il demeure en contrôle. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Et peut-être qu'on peut mettre notre main sur notre cœur. Et on veut juste demander au Seigneur de faire grandir notre sécurité en lui. Parce que c'est pas Dieu qui n'est pas sécur, c'est nous qui parfois on a de la misère. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce matin, sachant que tu es notre sécurité. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, notre désir, c'est d'avoir cette joie comme David avait. Une joie qui demeure, qui est au-delà de l'abondance ou des circonstances, mais une joie dans ta présence. Et Seigneur, je veux te prier que chacun d'entre nous, pendant cette semaine, pendant les prochaines semaines, Seigneur, qu'il puisse y avoir ces temps de rafraîchissement dans ta présence, Seigneur, afin, Seigneur, que notre sécurité ne provienne pas de nos exploits, de nos forces, de nos capacités, mais que notre sécurité soit littéralement ancrée en toi, peu importe les circonstances. Alors, Seigneur, je te prie pour le courage, pour mes frères et mes sœurs, de pouvoir trouver en Christ une pleine sécurité pour leur vie. Que celui qui a besoin de mieux dormir, dorme mieux dans le nom de Jésus, Seigneur. Que celui qui a besoin de pardonner à ses ennemis, pardonne à ses ennemis et retrouve le sommeil dans le nom de Jésus. Seigneur, tu bénis ton peuple, Seigneur. Tu bénis chacun. Et que ta grâce, que ton visage puisse luire sur chacun d'entre nous, ceux qui sont à la maison, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont à la corde disent un grand amen avec moi. Amen et amen.